Donc, retenons maintenant trois choses par rapport au mode, mais peut-être qu'il faudra le reprendre parce que... Donc, voyez bien, nous avons vu donc qu'il va y avoir plusieurs choses. Voici, tu concevras. Tu concevras. Donc, conception. Marie, comme mère de Dieu, va être mère de Dieu comment ? Comment ? Elle concevra. Et donc, il va y avoir une opération de conception de la très sainte Vierge dans cet acte où le Verbe va s'incarner. C'est une conception. Vous voyez bien, donc c'est, comme je viens de vous l'expliquer à travers l'acte de foi, c'est purement contemplatif. Et pourtant, le corps, la chair et la charité concrète dans l'unité spontanée, par exemple, sont présents. Je fais avec toutes mes forces physiques, hein. Ça mobilise toutes mes forces. C'est pour ça que le type qui fait un acte de foi, ça m'étonnerait que ce soit vraiment... Toutes les forces sont mobilisées dans l'acte de foi. Donc c'est un acte de conception de la Très Sainte Vierge. Il s'achève, donc nous l'avons vu, au respectus, je répète, du Verbe vis-à-vis de son incarnation. De sorte qu'on va avoir dans cette conception trois choses. D'après l'évangile de Saint-Luc, la première chose, c'est l'obombration de Marie. Obombration. C'est une bombe, hein. C'est en même temps une ombre et une bombe. Obombration. Mais ce n'est pas une bombe explosive, c'est une bombe impulse. Hein? Obombration. La bombe explosive, c'est... La bombe implosive, c'est... C'est une obombration. Donc elle se fait à travers l'obombration de Marie, donc dans son acte de foi. Premièrement. Deuxièmement. Il va y avoir une supervenue, supervignette du Saint-Esprit qui va, cette supervenue du Saint-Esprit va transporter, transformer, elle vient de le dire dans le texte que je viens de vous lire. Elle est entièrement transformée, l'Esprit Saint la prend tellement qu'elle est transformée, transportée à l'intérieur de la très sainte Trinité, à l'intérieur de l'unité du Père et du Fils. Et son corps est entièrement transformé. Elle est transformée, donc, à l'intérieur de la très sainte Trinité, donc, la supervenue du Saint-Esprit porte l'acte de foi de Marie dans l'actuation, la foi de Marie est actuée dans l'actuation d'une grâce incréée. Attention, l'acte de foi, c'est une grâce créée. Sous l'obombration de la toute-puissance de Dieu, quand je me laisse entièrement sous le poids de la présence de Dieu, du Père, qui engendre un Verbe, je fais l'acte de foi. Je me laisse prendre participation dans cette puissance de Dieu, le Père, le Tout-Puissant, le Très-Haut, qui engendre un Verbe en lui. Ça, c'est l'acte de foi que je fais. Et du coup, tout ça étant au centre et à partir du centre de mon âme, l'Esprit Saint me transforme et me transporte à l'intérieur de ce qui est tout à fait incréé dans cette dynamique incréée du Père qui engendre un Verbe. Mon acte de foi pénètre jusque dans la vitalité du Père engendrant un Fils. C'est par la supervenue du Saint-Esprit que l'acte de foi de Marie est porté jusque dans la grâce incréée. Il est rendu parfait. Mon acte de foi, comme le vôtre, il sera, et celui de Marie aussi, si vous voulez, quelque part, ben, il n'atteindra jamais la perfection de la très sainte Trinité, jamais. Donc, il a ses limites. Mais si vous le faites avec toutes vos forces, hein, alors à ce moment-là, vous avez lancé Si ce n'est pas avec toutes vos forces, vous n'arrivez pas au bout du tremplin pour continuer. Hein? Si vous le faites avec pas toutes vos forces, vous arrivez avant la fin du tremplin. Si vous le faites avec toutes vos forces, vous êtes arrivé. Et hop! On continue! L'acte de foi est donc transporté par l'Esprit Saint dans sa survenue, jusque dans la très sainte Trinité, dans une grâce incréée. Obombration permet l'acte de foi, qui est une grâce créée. Et la supervenue du Saint-Esprit permet donc que cet acte de foi soit actué dans une grâce incréée. Le Père engendre un Verbe et vous l'engendrez avec lui. Obombration supervenue. Alors, il va y avoir tout à fait, ça c'est la il va y avoir tout à fait la conception, la conceptio de Marie, qui va du coup recevoir le don, et donc sa foi va permettre que s'ouvre en elle, dans toute sa personne, un accueil de ce don permettant au Verbe de s'incarner en elle. Voilà les trois moments de l'acte de foi de Marie et qui font que ça se réalise selon cette voie d'accès. Le Père obombre, le Saint-Esprit supervient et du coup le Fils descend dans son berceau et s'incarne. Et dans l'acte de foi, qui est l'acte de foi chrétien, il faut que je sois entièrement imbibé de la première personne de la très sainte Trinité, brûlé, transformé par la troisième personne de la très sainte Trinité, pour que je puisse recevoir le don de Dieu. Le Père nous a donné son Fils. Et je l'accueille dans mes entrailles, dans mon ventre. Alors vous comprenez bien que le Père, par l'obombration, qu'est-ce qu'il fait, lui? Vous sentez bien que c'est presque nous, on coopère. Mais finalement, Dieu fait beaucoup, évidemment. Le Père, qu'est-ce qu'il fait? Il engendre dans notre intelligence contemplative incarnée, dans notre compréhension, si vous voulez, contemplative. Qu'est-ce qu'il fait, le Père? Il engendre dans notre intelligence contemplative, il engendre la lumière surnaturelle de la foi. Il engendre une lumière surnaturelle. Dans mon intelligence, ma compréhension, une lumière surnaturelle vient imbiber mon intelligence. C'est une lumière divine. Et cette lumière divine, c'est une participation au torrent de lumière qui sort du Père et qu'on appelle le Verbe de Dieu. C'est une participation. Donc, Dieu le Père, à travers l'obombration, qu'est-ce qu'il fait, lui, de son côté? Dieu le Père, de son côté, il fait que, en l'acte de foi de Marie, la lumière surnaturelle de la foi est engendrée en elle. Le Père engendre dans l'intelligence incarnée de Marie, la vie contemplative, la contemplation incarnée de Marie, très charnelle de Marie, très vital, très fervent, très total. Le Père, du coup, engendre une lumière surnaturelle, et cette lumière surnaturelle, qu'on appelle la lumière surnaturelle de la foi, vient habiter dans la lucidité, la compréhension, le regard, la vision, ce qu'elle voit, ce qu'elle regarde, son attention, tout ça, sa contemplation. Et cette lumière surnaturelle, c'est une participation. C'est une participation au torrent de lumière qui sort éternellement du Père, et ces torrents de lumière, c'est le Fils de Dieu. Puisque le Fils de Dieu, c'est la lumière né de la lumière, engendré par le Père. Eh bien, là, dans l'acte de foi, le Père, de son côté à lui, engendre une lumière surnaturelle qui est une participation de la lumière du Verbe. Donc, quand vous faites un acte de foi, vous ne rajoutez rien au point de vue de la lumière à Dieu. C'est une participation au torrent de lumière qui sort du Père, et ces torrents de lumière, on appelle ça le Verbe de Dieu, le Fils de Dieu. Donc, chaque fois qu'on fait un acte de foi, on dit, c'est formidable, je produis une lumière surnaturelle, étonnante, sans moi, grâce à moi, il y aura plus de lumière au ciel dans l'éternité. Non, pas plus, on ne rajoute rien. C'est une participation. C'est ça, c'est qui est très très extraordinaire, hein, ce que fait Dieu le Père, là, ici. Le Saint-Esprit, lui, il prend cette participation de la lumière surnaturelle de la foi qui imbibe la plénitude de grâce bien incarnée et physique de Marie, il l'actue, c'est-à-dire, ça c'est le bout du tremplin, et il prend le relais, et il l'actue dans les airs, c'est-à-dire dans tout le diaphane de la Très-Sainte Trinité. Il le transforme en grâce incréée. Le Saint-Esprit actue dans l'incréé la foi de Marie. C'est-à-dire que la maternité va se terminer grâce à cette puissance vitale que l'Esprit Saint prolonge et fait que l'acte de foi de Marie se termine dans la Très Sainte Trinité, et grâce à cette puissance-là, qui brûle tout son corps jusque dans l'incréé, alors à ce moment-là, elle est totalement dans l'éternité de la procession du Père dans le Fils. Et du coup, le Fils procède d'elle avec le Père. Et le Verbe se donne, du coup, à elle, puisque quand le Père engendre un Verbe, le Verbe se donne au Père. Donc le Verbe se donne à elle en s'incarnant en elle. Et les trois, Père, Fils et Saint-Esprit, dans ces activités complémentaires, agissent dans une circum incessio, circum-incession, ceux qui étaient employés savent ce que ça veut dire, puisque j'ai expliqué ce que ça voulait dire, dans une circum-incession, pour faire un seul acte de foi, qui est l'acte de foi de Marie. L'acte de foi de Marie, c'est le rassemblement en elle de ces trois disponibilités par rapport au Père et ces trois activités du Père, du Saint-Esprit et du Fils, en un seul acte, pleinement lucide. C'est dingue. Et quand je dis surcumulation, ça veut dire que tu ne peux pas mettre de primauté. C'est-à-dire que ce n'est pas d'abord l'embrassement, puis après la supervenue, puis après la conception. Tu ne peux pas dire c'est d'abord la conception, puis la supervenue, puis la... Non, non. La supervenue du Saint-Esprit, elle est à l'intérieur de l'embrassement. L'embrassement, elle est à l'intérieur de la conception. La conception est à l'intérieur de la supervenue. Et la supervenue est à l'intérieur de la conception aussi. C'est un seul acte. C'est l'acte de foi. C'est pas mal de décomposer l'acte de foi à partir de la révélation de la maternité divine de Marie. Alors, ça vous donne une idée de ce que nous, on doit faire. Parce que nous, on est comme elle. Hein. On est comme elle. On est pauvre comme elle. Notre acte de foi est limité. Mais quand on y met toute notre ferveur, alors à ce moment-là, quand on y met toute notre ferveur, et qu'on le fait avec elle, dans une charité totale, avec elle, hein. Faut avoir aucune réticence. Faut jamais protester, hein. Pas être protestant, hein. Aïe, aïe, aïe. Pas protester contre Marie, hein. Surtout pas. Alors sinon, pas possible de faire un acte de foi qui aille jusqu'à la substance du corps du Christ. C'est pour ça que finalement, ils font pas une eucharistie qui aille jusqu'à la transubstantiation. Qui protestent contre Marie. Tandis que nous, on l'aime totalement. Et du coup, notre grâce et sa grâce sont une seule grâce, et on vit comme avec elle dans l'incréé. Et dans cet incréé, voilà, ça y est, on est dans la Très Sainte Trinité. On avait à peu près bien compris ce qui compte, je pense, c'est de voir qu'il y a donc trois grandes opérations. C'est ce que dit Saint Augustin. Et que va commenter ensuite Saint Thomas d'Aquin.
Et tout ça est repris par le grand catéchisme de l'Église catholique, de l'Église apostolique. Comment est-ce qu'on fait un acte de foi? Ça se fait en trois opérations. Trois opérations. Opération, opération du Saint-Esprit, opération du Père, opération du Fils. Et les trois dans une coopération qui unifie les trois opérations du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alors, vous voyez, comment Saint-Augustin dit ça? C'est des choses qu'il faut savoir. Saint-Augustin, il dit, l'acte de foi, il y a trois moments. Ouais, c'est marrant parce que chaque saint l'exprime d'une manière différente. C'est ça l'avantage des saints, c'est que l'acte de foi, comment tu fais? D'abord, tu crois Dieu. Credo Deum. Credo Deum. Je crois Dieu. Par exemple, quand je dis je te crois. Je te crois. Je crois Dieu. Vraiment, je crois. Je crois ce qu'il dit. Je le crois. Bon. Quand je dis je le crois, c'est Dieu, quoi. Je crois Dieu. Je le crois. Ça veut dire je crois ce qu'il dit. Quand vous dites quelqu'un je le crois, ça veut dire je crois ce qu'il dit. Je crois sa parole, je reçois totalement sa parole. Je le crois. Hein? Or, quand la parole de Dieu, je l'entends dans mon oreille, c'est physique l'oreille. Quand je l'entends dans mon oreille, il faut bien que la parole de Dieu devienne sensible, audible, physique pour moi. C'est pour ça que quand Dieu parle, sa parole qui est absolument inaudible pour nous, parce qu'elle nous dépasse complètement, et puis nous on n'est pas Dieu, et puis on n'a pas l'oreille de Dieu, on a des oreilles humaines, on a une âme humaine aussi. Et donc pour entendre la parole de Dieu, il faut que la parole de Dieu puisse parler à travers une espèce de haut-parleur, de micro, et c'est Jésus, c'est l'humanité de Jésus. Quand Dieu parle, c'est le Verbe de Dieu. Quand toi, tu exprimes un verbe par ta bouche, une parole par ta bouche, parce que tu l'as conçue au fond de toi, tu vas l'exprimer au monde. Donc, tu peux concevoir quelque chose au fond de toi, quelque chose de sublime. Tu engendres un verbe au fond de toi, un verbe intérieur que tu aimes beaucoup. Et si tu veux le communiquer aux autres, il faut que tu l'exprimes par une parole. Le verbe se fait parole. Pour nous, c'est comme ça. Eh bien, Jésus, c'est la parole par laquelle le Verbe intérieur du Père se montre clairement à nous. Donc, je le crois, c'est Jésus. Quand je dis je le crois, c'est le premier moment d'un acte de foi. Je regarde Jésus. Et je peux le regarder sous toutes les formes où il donne à moi. Je peux le regarder sous la forme d'une icône de Jésus crucifié, sous la forme de sa présence personnelle dans le tabernacle, dans l'hostie, dans l'Eucharistie. Je peux le prendre comme faisait Marie. Marie, elle l'a pris à partir d'où? Elle l'a pris à partir de la plénitude de grâce. Elle a été baptisée dès sa conception, Marie. Baptisée par Jésus crucifié. C'est étonnant, très étonnant d'ailleurs ça. Donc il y avait ce baptême qui faisait que Jésus crucifié était en elle. Peut-être qu'elle ne le voyait pas clairement, mais elle savait que c'était le Messie en tout cas, qui était en elle pleinement. L'onction du Messie, plénitude de grâce, ça elle le savait. L'ange lui a dit en tout temps, pleine de grâce, plénitude de grâce. C'est l'onction du Messie qui était totalement en elle. Donc c'est à partir de la présence de Jésus, je rejoins en moi Jésus par le baptême, ou Jésus dans l'Eucharistie, ou Jésus sur une icône, une image, un crucifix, que sais-je, Jésus, de toute façon. Je conseille, ou alors, par la foi, justement, je sais que Jésus, il est toujours tout proche de nous, il est ressuscité, donc il est dans tous les temps, tous les lieux. Dès que quelqu'un l'aime, il est là. Me voici. La paix soit avec toi. Et il est en face de vous, il est là, il est en vous. La paix soit avec toi. C'est Jésus. Je me mets en présence de Jésus. La paix soit en toi. La paix soit avec toi. La sérénité incréée qui est en moi est en toi. Pour toujours. Jusqu'à la fin du monde. Et donc le premier moment de l'acte de foi, c'est Credo Deum. Je le crois. Je crois qui ? Je crois le Dieu le Père qui parle dans son verbe. Et son verbe, j'entends grâce à sa parole. C'est Jésus, la parole. La parole, c'est la manifestation visible d'un verbe intérieur. Ça va ? Donc la première chose que je dois faire, c'est toucher Jésus. C'est toucher Jésus. M'accrocher à Jésus. M'accrocher à Jésus. Le toucher. Me coller à lui. Atteindre Jésus. Toucher Jésus. Adhérir Jésus. Comme on dit l'adhésion du scotch, vous savez. J'adhère à Jésus. Ah, il faut adhérer à Jésus. De toutes ses forces. C'est le premier moment. C'est le premier moment. Puis, Saint-Augustin dit, une fois que tu as adhéré à Jésus, que tu touches Jésus, alors, il faut que tu... C'est pour ça qu'on prie comme ça, hein, quelquefois, les mains jointes. Tu adhères à Jésus. Tu adhères à Jésus. Bien. Deuxième moment, on prie comme ça aussi. Deuxième moment. Deuxième moment, donc on prie comme ça, donc les mains jointes, puis ensuite les mains croisées. Donc, d'accord. Donc. Parce qu'une fois que tu as touché Jésus, il faut que tu rentres en lui, que lui il rentre en toi. Tu rentres en lui, et lui il rentre en toi. Tu rentres à l'intérieur, tu rentres par les portes, de préférence. Vaut mieux rentrer par les portes. C'est ce que dit Jésus. Celui qui rentre dans la maison par la fenêtre est un brigand, est un voleur. Celui qui rentre par la porte, c'est lui, le berger fidèle et véritable. Il faut rentrer par la porte. Mais la porte par laquelle on peut rentrer à l'intérieur de Jésus, et du coup Jésus rentre à l'intérieur de nous, il est déjà rentré à l'intérieur de nous à cause de ses blessures. À cause de ses plaies, et surtout la blessure de son cœur a été déchiré dans une ouverture béante. Et à travers cette blessure, qui a fait ces blessures? Ce sont mes péchés qui ont fait ces blessures, et Jésus a voulu introduire mes péchés jusqu'au fond de son cœur, pour qu'il soit entièrement brûlé par son amour victorieux de tout. Donc moi, grâce à mes péchés, je suis déjà à l'intérieur de... je suis déjà à l'intérieur de lui, ou il est déjà à l'intérieur de moi. Mais réciproquement, le reconnaissant, je rentre dans la blessure du cœur pour être moi aussi à l'intérieur de lui. Je fais ce qu'il a fait. Il a pris ce qui est le plus personnel à mes actes. Les actes que j'ai faits qui sont des actes de bonté, ils viennent pas de moi, ils viennent de Dieu. Tout ce que je fais de bien, c'est grâce à Dieu que je le fais, c'est Dieu qui le fait en moi. Et tout ce que je fais de mal, ça vient de moi. Tout. Tout amour vient de Dieu. Donc tout ce que je fais, tout ce que j'ai pensé, etc., dit, et où il y a du bien, où il y a de la bonté, où il y a de la perfection, c'est pas moi qui l'a fait. Tout amour vient de Dieu. Par contre, à chaque fois que je me suis retranché, que je coupe l'amour de Dieu, je me coupe de ma source, c'est-à-dire que je fais des péchés, des actes qui sont coupés de la perfection divine, à ce moment-là, ça c'est mort, ça c'est sûr. Et Jésus a pris ses péchés, qui sont les miens. Donc, déjà, c'est un petit peu comme si il y avait un espèce d'immense élastique. Au lasso, il nous a pris, je la crois, grâce à tes péchés, là. Et puis, tu les as fait pénétrer en toi. Les péchés sont déjà en lui. Ça fait une ouverture béante, une plaie énorme. Et il ne te reste plus à toi que, grâce à l'élastique, tu te précipites à l'intérieur, là où ces péchés ont été brûlés. Tu rentres en lui. Je sais pas si c'est très... C'est pas Saint-Augustin qui parle de l'élastique. C'était pas son genre. Plus il n'y avait pas d'élastique à cette époque-là. Bon, bref, donc, vous rentrez à l'... Donc, deuxième moment, je crois, je crois à Dieu. C'est-à-dire, quand on dit je crois, ce qu'il dit, c'est pas la même chose que dire je crois, j'y crois, quoi. Je crois à lui. C'est la personne qui est atteinte, là, hein. Donc, je rentre donc en lui. Je rentre dans le cœur de Jésus, je rentre dans l'humanité de Jésus, je rentre à l'intérieur de son humanité, dans son mystère. Et là où il est le plus brûlant, source, et lié à sa personne qui se donne, c'est dans son cœur blessé. C'est là où la très sainte Trinité jaillit, l'Esprit Saint va jaillir de là, de son cœur ouvert, de sa blessure. Donc je rentre dans son cœur, son amour brûlant, infini, quasi infini, pardon. Et à l'intérieur, au centre de son amour infini, j'ai la personne du Christ qui aime d'un amour incréé, infini. Et absolument parfait. Donc je touche et je crois en Dieu dans le cœur du Christ et j'atteins le Verbe de Dieu là. Je le touche. Premièrement, j'adhère, je crois à Dieu, credo Deo. Deuxièmement, credo Deo, je crois à Dieu. Je crois à Dieu, c'est-à-dire j'atteins, c'est Dieu que j'atteins dans, à l'intérieur du cœur du Christ. Donc premièrement, j'adhère, je me colle. Deuxièmement, je rentre en lui comme lui pénètre en moi. Et dans la blessure de son cœur, je vais jusqu'au centre de son cœur, le centre de son amour terriblement brûlant, glorieux. Et au centre de cet amour terriblement glorieux et brûlant, je touche Dieu. Et troisième moment, credere in Deum. Ayant touché Dieu, je plonge devant Dieu. Si je te touche, je ne suis pas encore plongé dans la piscine. Je touche l'eau de la piscine, c'est tout. Je plonge en Dieu et je vis de la très sainte Trinité et des processions de la très sainte Trinité. Et effectivement, le Verbe, lui, que j'ai touché dans le cœur de Jésus, il est tout relatif, tendu vers le Père, donné au Père. Et quand il est entièrement donné au Père, il s'engloutit dans un amour si fort que cet amour est substantiel. Ils disparaissent tous les deux, il n'y a plus que l'Esprit Saint. Donc je suis rentré dans Dieu, là. L'intimité de la très sainte Trinité, procession incréée. Et je suis rentré avec tout moi-même, grâce à cette porte qui est au cœur de Jésus. Allez, c'est une manière, la manière Saint-Augustin est magnifique. Et en plus, c'est facile à faire. Alors, il y a encore les trois choses, comprenez ? Alors, faire un acte de foi à partir de Marie, faire un acte de foi à partir du cœur de Jésus. Pourquoi c'est possible ? Pourquoi ? Parce que justement, le cœur de Marie et le cœur de Jésus ne font pas nombre, il n'y a qu'un seul amour. Il n'y a pas deux amours, il n'y en a qu'un, quoi. Alors c'est pour ça que c'est la même chose de le faire à partir de la... Mais c'est bien de le faire sous le mode de la femme, de le faire la nouvelle Ève, de le faire sous le mode du nouvel Adam. Et puis après, on s'aperçoit que finalement c'est la même chose qu'on a fait. Hein? Alors évidemment, vous voyez bien que moi je suis là, le lieu de mon corps et de toute ma personne, c'est quoi? C'est ce qui... Vous voyez, mon habit ici, là, eh ben, il épouse le lieu de mon corps. Le lieu, c'est l'enveloppant. C'est l'extérieur de l'épiderme, si vous voulez. L'extérieur de l'épiderme, c'est ça qu'on appelle un lieu. Mon lieu, c'est pas que je suis ici à 3 mètres de temps. Mon lieu, c'est mon enveloppant. Alors, quand je fais un acte de foi, il faut que mon lieu, c'est-à-dire mon enveloppant, soit au bon bré, au bon bration. Au bon bré, au bon bration, par qui? Par Jésus. Je colle à Jésus. Et à bien regarder,
Jésus se colle à moi comme une ventouse, et moi, à travers sa plaie est complètement appliquée à moi. C'est dans sa plaie que je suis entièrement. Vous voyez? Deuxièmement, à partir de là, et forcément, il faut absolument que je rentre au-delà du voile de cette plaie. Que je rentre au-delà du voile. Et là, forcément, à travers la blessure du cœur, il y a la divinité du Verbe qui est présente. Supervenue. Et du coup, je peux concevoir dans la très sainte Trinité ce qui se passe. Il y a une conception du Verbe à partir du Père, et tout ça est reçu et donné, et le don, c'est l'Esprit Saint dans le sein du Père. Vous voyez bien qu'il y a les trois moments. Et donc, j'ai conçu en faisant ça un acte de foi. Finalement, c'est la même chose. Et vous voyez que les schèmes ne sont pas les mêmes, mais pourtant, le mystère de la foi est le même. C'est pour ça que je vous ai expliqué, il n'y a pas de méthode. Mais il y a beaucoup d'amour très incarné et très fervent pour Marie, pour Jésus, pour les deux. Et du coup, ça nous fait tomber dans l'océan d'amour incréé du Père pour le Fils, de l'Époux pour l'Épouse. Et du coup, il n'y a plus que l'unité du Père et du Fils. Il y a un seul Dieu, un seul amour, une seule vie intime, très profonde, éternelle. Hein.
Même un truc pas au hasard, mais presque. Pendant ce mois de mai, on est encore au mois de mai, là ? Ah, c'est bien. Fête de Saint-Joseph, travailleur, 1er mai. Comment ce prêtre italien traduit sa foi vivante ? Efforcez-vous, lorsqu'il s'identifie à travers sa parole, à la parole que Marie veut nous donner. C'est ça, c'est un acte de foi. Alors qu'est-ce qui sort de ça ? Quel est le fruit de son acte de foi ? Dans la lumière, dans l'ordination transcendantale de la maternité divine de Marie. Quelle est la parole qui sort de ce prêtre pauvre ? Efforcez-vous de vivre plus intensément la consécration que vous avez faite à mon cœur immaculé. Donnez-moi des petites fleurs de mortification pour consoler la grande douleur que j'éprouve en voyant comment toutes les invitations que j'adresse à l'humanité afin qu'elle revienne à son Dieu ne sont pas accueillies. Durant tous les jours de ce mois de mai qui m'est consacré, offrez-moi de petites fleurs faites de silence. Faites du silence et de la docilité. Ah, c'est l'instant, on va essayer de réfléchir à ça. Faites du silence et de la docilité. Voilà, première fleur, mortification, c'est beau. De la totale disponibilité. Deuxièmement. Tout et tout dans la disponibilité. De l'humilité et de la patience. Humilité et patience. Troisièmement. De la douceur
de votre renoncement, donc renoncement au plaisir des sens, de la douceur, mais un renoncement sans forcer, doux, la douceur, dans la douceur, un renoncement au plaisir des sens, dans la douceur. Alors, c'est ces quatre, hein, vous pourrez marcher dans le mépris de vous-même. Opérant en vous ce dépouillement du monde à ses séductions, et ceci constitue l'engagement le plus important que vous avez pris lors de votre consécration dans la grâce du baptême. C'est quand même extraordinaire. C'est ça, l'engagement le plus important, le mépris de vous-même et le dépouillement de tout ce qui vient du monde, de toutes les choses de ce monde. Vous voyez bien que, là, quand elle dit ça, elle dit, si vous voulez vivre du mois de mai et rentrer dans le mystère de ma maternité divine pour partager cette maternité divine avec moi grâce à un amour divin complètement incarné humainement, que vous allez vivre, vous, eh bien, il faut que vous soyez dans une très grande pauvreté. Une très très grande pauvreté. Ça veut dire, vous lâchez les baskets, allez, vous lâchez, vous, le fameux lâcher prise. Vous lâchez prise. Allez, j'ai aucun droit et je suis content de ne pas avoir de droit, parce que du coup je comprends que l'amour c'est pas au niveau du droit et des lois. Vieux droit quoi, il y a la loi, il y a, on m'a pas donné, mon CAF, mon pape ou je sais pas quoi, mon PAP, mon tonnerre, etc. Et bon, je ne vis pas au niveau du droit, vous comprenez? J'accepte d'être dépouillé, je lâche les baskets. Il ne faut pas que je m'occupe de ça pendant que je vais faire l'acte de foi. Évidemment. Quand vous êtes à la banque, il vaut mieux que vous signiez le papier quand même. Mais quand vous faites l'acte de foi, laissez tomber tout ça. Laissez ça. Laissez ça. Ah, il m'a injurié. Ah, il m'a méprisé. Ah là là, là, là. C'est vraiment la lavette à la maison. Laisse tomber. On est entièrement dépouillé des choses qui séduisent les gens de ce monde et on est dans le mépris de soi-même. Mais pourquoi et comment est-ce qu'on peut rentrer dans le mépris de soi-même et cette pauvreté-là? Comment? Ben c'est beau, elle donne quatre moyens. Comment arriver à cette totale pauvreté? Quatre moyens. Ah, c'est pas mal. Et ces moyens sont des associations. En fait, j'ai triché, j'ai mis un « et » ici, j'ai mis un « et » ici, alors que il n'y est pas dans son truc. En fait, il y en a sept, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, c'est 6. Bon, le silence et la docilité. Alors, le silence et la docilité. C'est un silence, ça veut dire que ce n'est pas un silence forcé. Ce n'est pas un silence dur. Ce n'est pas un silence ascétique. Ce n'est pas un silence stoïcien. Ce n'est pas un silence à la force du poignet. Ce n'est pas un silence militaire. C'est un silence habité. C'est un silence habité parce que on est entièrement docile. C'est un silence qui permet d'être totalement transformable, docile. C'est pour ça que ceux qui aiment vivent la spiritualité du disciple préféré de Jésus, celui qui a eu tous les secrets de l'Immaculée Conception, tous les secrets de la Mère de Dieu, tous les secrets de la Mère de l'Église, tous les secrets de la Mère qui devient reine, Saint Jean,
le prêtre de Marie, celui à qui, le seul qui a été vu, qui a vu la blessure du cœur, le seul qui a compris, le seul qui a cru à la résurrection, le seul apôtre, le seul disciple, si on veut rentrer dans sa spiritualité. Il faut comprendre que tout commence par une spiritualité au niveau pénitence, si vous voulez, mortification, qui démarre à partir du silence. Toutes les paroles inutiles. Le silence. Et vous voyez, dans la spiritualité, tous ceux qui ont fait leur oblature, dans la mystique de Saint Jean l'Évangéliste, ils doivent comprendre, c'est marqué dans leurs règles, et ceux qui doivent faire leur oblature doivent s'en rappeler, que leur pénitence, c'est le silence. Mais attention, un silence habité, pour être dans la docilité vis-à-vis du Saint-Esprit. Silence total. Alors on est habité. Et du coup, on est malléable par la grâce. Parce que Yo Hanan, c'est Dieu, Yo Yahweh, et Hanan qui caresse de l'intérieur, dans une mobilité, une douceur, une émanation de l'intérieur qui caresse le cœur, l'amour et l'humanité de Jean, du disciple bien-aimé. Ah ouais? Et pour ça, il faut le silence. Et la première pénitence, c'est ça, c'est le silence. C'est pas de pas manger de viande ou de chocolat, etc. La grande pénitence, la seule pénitence, vous voyez, pour moi, je suis aussi d'une congrégation, justement, qui appartient à la mystique de Saint Jean l'Évangéliste, qui s'appelle la communauté de Saint Jean, et bien, dans la règle, chapitre pénitence, c'est le silence. Je dois renoncer à parler, à transmettre. Sauf quand je suis envoyé. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait des cassettes, comme ça m'évite de parler. Bon. C'est extraordinaire. La parole est transmise, mais je reste silencieux dans mon ermitage, c'est fou. C'est génial le truc là. Le silence. Oh, c'est, vous voyez, il faut que ce silence soit habité. Voilà, je reste silencieux, mais habité, docile. Premier moment. Et il faut qu'il y ait beaucoup de moments. Il faut que je passe des journées entières. Bah, le silence. Un silence, de bouche, bien sûr. Hein, mais c'est un silence parce qu'il est habité par un silence intérieur. Il est habité par un silence intérieur parce que justement, il y a cette attente. Il y a cette attente, on veut vivre de la parole de Dieu. C'est pour ça que si on n'est pas silencieux, les gens qui sont bavards, ils lisent jamais la Bible. Ah, ils lisent beaucoup les révélations privées, tout ça, ça oui. Des bouquins. Ils n'ont aucune indigestion. La parole de Dieu, c'est combien de temps vous avez lu la Bible, disons une demi-heure de suite, ou il y a deux ans, trois ans peut-être, je sais pas. Mais les tonnes de révélations privées qu'ils ont lues, c'est dingue. Mais les gens silencieux, automatiquement, ils sont dociles. Ah, à ce moment-là, oui, la parole de Dieu, elle a un écho incroyable. Et c'est vrai, ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut... Non, moi, j'aurais pu vous lire la Bible, mais je ne l'ai pas en français, je l'ai en grec. Alors. Donc, c'est pour ça que je retombe sur mon frère dans le sacerdoce. Donc, c'est pour montrer que je ne méprise pas non plus, mais c'est pour vous montrer que, quand même, la première chose, c'est le silence. Donc, un silence habité. Et c'est toute la pénitence, c'est ça. C'est ça, la grande pénitence de ceux qui sont préférés par Dieu, par Jésus. La pénitence que Jésus préfère, et là, ceux qu'il préfère, c'est ceux qui font pénitence de cette manière. Le silence. Un silence intérieur, habité, docile. C'est marrant parce que du coup, on entend la parole de celui qui crie, la parole du prochain. Du coup, on peut écouter. Vous comprenez bien que ce silence dans la docilité à la grâce, permet d'être disponible. Vous voyez, on retrouve tout ce qu'on avait dit tout à l'heure, ce qu'on avait dit ce matin, pour voir les qualités qui sont à l'intérieur, qui précèdent l'acte de foi de Marie. C'est des dispositions intérieures. Ce sont des vertus. Du coup, on est disponible. On est disponible vis-à-vis de qui on est disponible, vis-à-vis de ce que l'autre me demande. C'est ça que ça veut dire. Peut-être qu'il faut supprimer le mot esclave. Moi, je veux bien. Dites disponibilité. Ouais, mais c'est la même chose. Je suis disponible. Je suis disponible. Je suis prêt à tout. Je suis disponible. C'est bien. Cette disponibilité, elle structure quelque part, elle structure notre liberté, notre puissance, notre fécondité dans l'ordre de l'amour vis-à-vis du prochain. C'est normal. Vous voyez comment l'ange Gabriel a annoncé à Marie la parole silencieuse du Père, le Verbe de Dieu. Elle a été docile à l'acte de circumcision de la Très Sainte Trinité dans son acte de foi. Et du coup, elle est disponible pour rendre service à Élisabeth. Automatiquement. Elle est disponible. Ça va ensemble. Ça coule de source. Mais déjà, même avant, c'était déjà ça. Il y avait ce silence, sa consécration totale à Dieu. Dans la chasteté, l'esprit de virginité, l'esprit de pauvreté, l'esprit d'obéissance, elle avait fait cette consécration qu'on fête dans la liturgie chrétienne apostolique depuis des siècles et des siècles et des siècles. En fait, la consécration de Marie, quand elle avait quelques années, toute petite fille, toute petite enfante, rien du tout, elle a fait sa consécration au temple, la consécration de Marie. La présentation de Marie au temple, vous savez quelle date c'est ?
20 novembre.
Tout ça, c'est fêté, vous voyez. Et donc, elle est rentrée dans le silence intérieur de Dieu, toute disponible, toute docile. Et du coup, comme elle était docile, le Saint-Esprit a présenté Joseph par un miracle, dire, c'est vous qui devez vous marier avec Joseph. Et vous savez qu'il y a eu le fameux miracle. C'est pour ça qu'on représente Joseph avec ce bâton, au bout duquel a poussé 3 fleurs de lys. C'est la verge d'Aaron qui avait été gardée dans le sein des saints. Pendant des siècles et des siècles. Le bâton d'Aaron qui avait frappé le rocher, rappelez-vous. Le bâton d'Aaron, le frère de Moïse, qui avait été gardé dans le Saint des Saints, Jérusalem. Et on a donné ce bâton aux plusieurs fils de David, les princes d'Israël, et Joseph qui était le plus pauvre de tous. C'est sur lui qu'a fleuri, parce qu'il savait que c'était la date, hein. Approximative de la naissance du Messie. Donc il fallait faire quelque chose. Donc on a pris tous ceux qui pouvaient être pères. Dans la lignée de David, on a pris Joseph aussi. Celui qu'on était cherché en dernier, hein, sachez-le bien. Hein. Ça sûrement. C'est pas marqué dans la Bible, mais moi j'en suis sûr. C'était forcément le plus pauvre. Non, ça ne peut pas être lui. Pourtant, il ne bougeait pas, il ne zozotait pas. Il était viril ce mec, hein, je peux te dire. Là, du coup, il était disponible, c'est ça qui est fou. Comme c'est vide, ce silence intérieur de sa consécration. Elle a vécu pleinement de ce silence, dans une docilité totale. Alors du coup, elle était disponible pour se marier avec Joseph. Et pourtant, c'est contraire à ce que Dieu l'avait demandé à la consécration, puisqu'elle s'est consacrée dans l'esprit de virginité, de pauvreté, d'obéissance. Mais elle a accepté que cette silence dans la docilité au bon Dieu soit gardée, cachée, engloutie, obombrée par la présence de l'époux, d'un époux que Dieu avait choisi pour ça, pour que lui-même puisse garder ce secret caché aux yeux des hommes. Dans le silence, le même silence, la même docilité et la même disponibilité. Dans l'unité sponsale et dans le respect. Alors, du coup, il y a l'humilité parce que dès qu'il y a le rapport mutuel, le don et l'accueil mutuel, l'échange du don et de l'accueil entre l'époux et l'épouse, entre l'homme et la femme, nécessairement, tu es obligé de rentrer dans l'humilité. Je ne suis pas grand-chose. Je ne suis pas grand-chose. Je suis pauvre. Je suis petit. Et il faut durer patience dans cette humilité. Si je ne dure pas dans cette humilité,
cette unité sponsale, perd de sa noblesse humaine. Renoncement à toutes les choses de ce monde dans la douceur. Et effectivement, cette fidélité mutuelle entre l'Immaculée et Saint-Joseph, eh bien, on voit bien qu'est-ce qui s'est passé. C'est que du coup, ils ont renoncé, ils ont dit obliger l'Esprit-Saint, finalement, quelque part, les providences, les événements et tout, les ont obligés à quitter tout, tout, leur maison, leurs avoirs. Ils sont partis avec rien dans les mains. Un âne, c'est tout. Un âne. Oh, cet âne. Un âne, et c'est tout. Leur seule richesse, c'était Jésus, qui était dans le sein de la Vierge. Ils sont partis avec rien. Et ils renoncent à tout. Et ils obéissent à la Providence à travers l'empereur de Rome. Et l'empereur de Rome, lui-même, à cause de cette obéissance héroïque, cette disposition, cette docilité dans l'amour des deux, donc dans la durée, la patience, a transformé le temps de cette époque-là. Et du coup, cette docilité a engendré l'obéissance de l'empereur de Rome au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui a inspiré, sans qu'il le sache, l'empereur de Rome, du coup a inspiré à l'empereur de Rome de dire « Tu fais un recensement de toute la terre. » Ce qui obligeait, d'une part, à récapituler pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, et pour la dernière fois, d'ailleurs, toute l'humanité, premièrement, et deuxièmement, ce qui obligeait Marie et Joseph, dans leur renoncement, leur pauvreté, avec une douceur extrême, d'aller à Bethléem, c'est-à-dire Beit Lehem, Beit la maison, Lehem du pain, pour que Jésus puisse être le pain et demeurer en nous sous la forme de pain. Parce qu'il était écrit que le Messie apparaîtrait à Bethléem. Il était écrit qu'il serait conçu dans la fleur de froment d'Israël, sur la tige de Jessé, des Radicé, vous savez, sur la fleur d'Israël. Nazareth, ça veut dire la fleur. Il était dit que il serait conçu là, de manière virginale, qu'il naîtrait à Bethléem. Donc, dans cette disponibilité, dans la durée et dans l'humilité, ils ont communiqué cette grâce d'obéissance au Saint-Esprit à l'empereur de Rome. Nul ne t'a donné cette autorité, sinon Dieu lui-même. C'est ce que Jésus a dit à Pilate. Cette autorité, tu ne l'aurais pas si tu n'avais pas été donné d'en haut. Eh bien, il a été docile. Et du coup, ils sont allés à Bethléem dans le renoncement et avec une douceur, dans le don de conseil, dans une douceur extrême. C'était comme de l'huile. Hein. Bon. Nous, voyez tous les moyens que nous avons. Le premier grand moyen, le silence intérieur. C'est pour ça que c'est bien de s'habituer à ce silence intérieur. C'est pour ça que, évidemment, il faut arrêter la Radio Monte Carlo, Europe numéro 1, etc. Radio Nostalgie, TF1, FR3, Canal+, écoute, c'est des paroles, ça. Silence. Ça, ce sont des paroles métalliques. Tandis que le silence, il est vivant. Une docilité à la vie intérieure. Donc je coupe toutes les paroles métalliques, et même les paroles qui sortent de moi, parce que dans l'esprit de ce monde, qu'est-ce que c'est inutile? Ces paroles sont inutiles, elles n'ont aucune vie, c'est mort, ça n'a rien plus. Bon, alors donc, vous voyez, c'est ça la première grande pénitence. Et ça engendre donc l'amour fraternel, du coup la durée dans cet amour, et du coup il y a ce renoncement à tout ce qui peut séduire les gens dans ce monde. Du coup, c'est possible d'obtenir le fruit qu'il a, le mépris de nous-mêmes, et le dépouillement. Parce que moi, je ne vous dirai jamais, s'il vous plaît, à partir de maintenant, règle de la communauté de la fraternité Henri Rennes de Montpellier, vous êtes obligé de vous mépriser vous-même. On commence par ça.
Moi, je viens plus au cours, hein.
On commence pas par le mépris de soi-même. Parce qu'on ne force pas. C'est dans la douceur. On ne force pas le renoncement. Il faut que ce soit un renoncement normal, facile. Très doucement. Sans forcer. Pourquoi? Parce que on dure dans l'humilité. Et cette durée dans l'humilité est possible si je suis disponible, totalement disponible. Bon, d'accord, c'est pas totalement esclave. 100% disponible vis-à-vis de celui que j'aime, qui est proche de moi. Et du coup, ceci, c'est possible si j'ai le silence intérieur et qu'il y a une docilité, que la vie, l'âme spirituelle à l'intérieur de moi est libre. Elle est voilà, je suis docile, grâce à ce silence, à ma vie intérieure. Parce que je sais qu'au fond de ma vie intérieure, il y a la grâce, quand même. Et du coup, bah forcément, il va être possible, si je reviens donc à ce silence et à la docilité, de dire, je vais faire un acte de foi. Et bien que ça, ce petit texte que je viens de vous lire, c'est plutôt les dispositions à l'acte de foi. C'est beau. Oui. Alors justement, c'est pour ça que tu aimes les autres comme toi-même, et du coup, tu rentres dans le dépouillement de toutes les choses de ce monde, et du coup, tu es dépouillé aussi de l'orgueil. Le mépris de soi-même, c'est que je suis entièrement dépouillé de l'orgueil. Bon d'accord, j'ai des trucs qui sont bien. C'est pas moi qui veux te dire que j'ai rien de bien. C'est pas moi qui vais dire, oh, on méprise tout ce que je te dis, hein, je suis vraiment. Quoique ça peut m'arriver de te le dire. Mais en tout cas, oui, c'est vrai, ce que j'ai, ceux qui sont bien, mais ça je le méprise. Par exemple, j'ai eu, juste avant de vous parler, une apparition de la colombe du Saint-Esprit. Vraiment, c'était extraordinaire. Elle avait une robe rose. J'ai jamais eu une apparition extraordinaire comme ça, jamais. Et puis c'est vraiment un signe divin, hein, vraiment formidable. Hein. Ah. Eh bien, j'aime autant vous dire, eh bien, ça je l'ai, bon ok, j'ai eu cette apparition, mais eh bien, je la méprise. Ça c'est vrai, je la méprise, ça c'est rien du tout. Allez, hop, on s'occupe d'autre chose. Ne m'intéresse pas. Ça c'est séduisant, d'accord, ça séduit les... Mais sinon, non. Moi ça ne me séduit pas du tout. Je ne suis pas séduit par les grandes richesses, même surnaturelles que j'ai reçues, les grâces que j'ai reçues. Non, je ne suis pas séduit par ça. Je ne suis pas séduit par ce que j'ai, par ce que je possède, par ce que bon Dieu m'a donné. Ça ne me séduit pas. C'est beau, c'est grand, ça vient de Dieu. Tout amour vient de Dieu, j'ai de l'amour en moi. J'ai la dignité du Fils de Dieu en moi. Mais même ça, au fond, je n'en tiens pas compte. Je me rappelle que quand j'étais au noviciat, le bon vieux père maître, cistercien, parce que moi j'étais novice, je fais pas mal de noviciats. Mais... Bon, tu lui disais, bon, j'ai reçu telle ou telle grâce, etc. Je ressens, je sais pas, les stigmates, et tout comme ça, ça brûle. Et tout. Alors, je disais, bon, moi j'ai un peu honte de vous dire ça. Je ne ressentais pas les stigmates, mais j'exagère à l'essai, n'est-ce pas? Bon, alors. J'ai un petit peu honte de vous dire ça, c'est grâce un petit peu où on est brûlé, on sent la chaleur, on sent. Ou alors on a une. Truc, on a. On monte comme ça. Oui. Mais est-ce que ça, il faut que je vous le dise, hein? Elle dit oui, bien sûr, il faut le dire. Elle dit mais comment est-ce qu'il faut que je fasse quand j'ai ça? Elle dit, méprise toujours complètement et totalement tout ça. À chaque moment suffit sa peine. Et l'instant présent nous oblige à rester dans le silence. Si je me replie sur moi-même, je regarde en arrière. Et celui qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume des cieux. Il est impropre pour le royaume des cieux. Donc, tu n'as pas à dire ça. Dès que tu as ces choses-là, méprise-les. Pourquoi ? Parce que ce que tu as reçu, c'est toi qui l'as, ça te glorifie, ça te gonfle. Et si tu restes là, si tu ne t'en sers pas comme un moyen, un tremplin pour aller dans ce qui te dépasse complètement, tu vois, pour aller au-delà dans ce qui te dépasse complètement, donc si tu ne le méprises pas, eh bien, ce que tu as reçu, c'est une semence qui ne partira pas vers son fruit, vers le déploiement et vers la fructification. La semence, elle doit mourir et faire pousser l'arbre pour qu'il puisse donner ses fruits. Donc je dois mépriser tout ce que j'ai reçu, tout ce que je suis. C'est ça le mépris de soi-même. Je dois mépriser tout ça. Et je ne m'occupe que de l'autre. Je ne m'occupe que de Dieu. Je suis dépouillé de toutes ces choses de ce monde. Et il faut... C'est pas facile. Il faut que ça devienne instinctif, ça. Vous ne pouvez pas forcer ça. Ça, vous ne pouvez pas le forcer. Vous ne pouvez pas vous le fabriquer, ça. Cette histoire de mépris de vous-même et de dépouillement total des choses de ce monde. Vous ne pourrez pas le fabriquer. Oui, mais il y a une voie d'accès. Premièrement, le silence. Là, il voit d'accès. C'est formidable d'arriver à, comme la Vierge a fait, à écraser la tête du serpent. Oh, c'est génial. Moi, je trouve ça génial. Quand j'y pense, moi, je me mets avec elle. Je suis très cher. Je prends mon talon, là. Et avec un sadisme. Pendant ce temps, il est sorti, il est sorti, il est sorti. Et puis il faut entendre des craquements de la tête du serpent. Ah oui, ça, il faut le faire avec elle, ça. Elle écrase la tête du serpent, du dragon, du serpent antique, Satan, Lucifer, sa tête. C'est génial. Je ne sais pas pourquoi je disais ça. C'est-à-dire l'orgueil. Pour arriver à ça, il faut y arriver quand même à vaincre notre orgueil qui nous détruit tellement. Et pour ça, il faut rentrer dans le grand silence de Marie. Le grand silence intérieur de l'Immaculée. C'est ce que je vous dis depuis 5, 6 ans, 7 ans. Il faut faire oraison. Être docile vis-à-vis des 7 dons du Saint-Esprit. C'est ça le grand silence de Marie. Faire oraison. Dans la charité fraternelle. C'est pour ça que très volontiers, on prie ensemble devant le Saint-Sacrement. Silencieusement. On écoute ensemble la méditation de la parole de Dieu. La révélation divine à ce monde. Oui, silence et docilité. Vous voyez bien, alors à ce moment-là, il y a cette disponibilité vis-à-vis de tout ce qui est reçu dans la charité fraternelle. Et du coup, on devient humble, c'est vrai, et on dure là-dedans. Voilà, vous voyez les grands moyens. Alors du coup, on va renoncer à toutes les choses de ce monde. Donc, dans la douceur, le renoncement, c'est donc le tabac, l'alcool, la télévision, les médias, je veux dire, quoi. La télévision. Attendez, il y a 5 trucs. Le sexe. Je sais plus. Non, la radio, c'était dans le deuxième, oui. Donc les grandes choses, vous voyez. L'argent, si vous voulez, oui. Bon, vous voyez, il faut renoncer. Il faut tomber dans le renoncement. Il faut renoncer à toutes ces choses, quoi. C'est ça. Mais renoncer et faire pénitence par rapport à l'alcool, la cigarette, je veux dire, la télévision, etc. Si vous n'êtes pas rentré d'abord dans le silence pour pouvoir aimer votre prochain et du coup toucher un tout petit peu en vous les sources de la patience et la source de l'humilité, d'un pain, vous ne pourrez jamais renoncer à la télévision. Non, vous ne pouvez pas. Si toi, tu restes dans la patience de l'humilité, ça va. Alors, c'est facile pour toi, mais sinon, non. Et je crois que le premier moment, c'est ça. Il faut rentrer, toucher. Vous voyez, comment est-ce qu'on peut faire? Moi, je peux vous donner des petites... pas méthode, c'est pas ça, mais que m'a donné mon dernier confesseur, n'est-ce pas? Bon. En plus, il est évêque, alors. Enfin, je méprise complètement que c'est un évêque, et... alors... ça me gonflait, c'est peut-être que j'étais confessé par un évêque, mais enfin... Donc, je méprise complètement, mais du coup, j'en tire la scientifique, moi. Et il me disait... bon, c'est pour ça que vous avez rendu compte que je donnais à quelques-uns d'entre vous le même style de pénitence à la confession. À la confession, il me dit comme pénitence, il me dit, vous arrangerez pour faire, puisque vous savez comment je veux faire, pour faire jaillir en vous la sérénité divine. Sérénité. Alors je me suis dit, bon, ok, très bien, je repars dans mon ermitage et tout, sérénité divine. Et puis j'étais embêté, il fallait faire cette espèce de retraite à la canourgue, la machin... Avec, je ne savais même pas qu'est-ce qu'on allait dire. J'ai lu 7, 8, 10 bouquins. Ils n'ont servi à rien, aucun des 7 ou 8. Alors, aucun. Non, c'est pas ça. Alors, je commence à voir les boules. Et puis, jamais j'y arriverai. J'ai même failli téléphoner à Mme Ozier en disant on supprime la session parce que j'ai rien à dire. Finalement, je ne l'ai pas fait. Je suis resté silencieux. Mais quand même, j'étais pas tranquille. Alors, je sors quand même de la confession, puis je me retrouve, puis on recommence à retravailler, chercher les trucs, à prier, tout ce que vous voulez. Et puis je dis, ma pénitence, ça va pas bien, ça va pas bien du tout. Alors, ma pénitence, il m'avait dit, vous faites jaillir du fond de vous la sérénité. Alors, il a fallu que je fouille en dessous de la perturbation dans laquelle j'étais. Et en dessous de cette perturbation, il y a une source qui est en moi, et je suis capable de la faire jaillir. Et je la retrouve, alors je fais « sérénité !» Point d'exclamation. Sérénité. Et voilà, ça y est, sérénité, c'est revenu. Sérénité. Supervenue de la sérénité. C'est une pénitence, c'était possible. Pourquoi? Parce que c'est une pénitence du sacrement de confession. La pénitence fait partie du sacrement. C'est même le dernier moment ultime du sacrement, donc là où le sacrement est le plus fort. C'est le moment où je fais la pénitence. C'est là où il est le plus fort. Donc je prends cette pénitence, c'est là où il y a la présence réelle, la participation à la rédemption la plus forte. Présence réelle du sacrement. Quand je dis sérénité, survenu, de la restantum du sacrement. Sérénité. Présence réelle, hein. Vous savez qu'est-ce qu'il y a dans la présence réelle du sacrement, je vous signale. À chaque fois que vous faites pénitence, c'est la réactuation, c'est l'actuation ultime du sacrement de pénitence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est quoi la présence réelle du sacrement de pénitence? C'est que tout le sang de Jésus, pas une seule goutte ne manquant, vous lave intérieurement, extérieurement, totalement, substantiellement, vous lave de toutes vos fautes, vous et tout ce que vous avez touché depuis que vous existez. Présence réelle. C'est génial. Donc vous et tout ce que vous avez touché. Jésus pardonne totalement ça. Et présence réelle, présence réelle. Là, je dois adorer Jésus. Je sens, je suis attentif. Et du coup, je reçois le fruit du sacrement. Et le fruit du sacrement, c'est que il réalise ce qu'il signifie. C'est à travers la pénitence. C'est des sérénités. Du coup, il y a une sérénité qui arrive. C'est marrant, hein. c'est pas la même chose que la méthode cool en disant sérénité, sérénité, pensée positive, ça y est, sérénité là. Non, c'est pas pareil. Pas pareil, pensée positive. C'est pas tout à fait la même chose. Il y en a un qui est sur le plan psychologique, l'autre qui est sur le plan des profondeurs de la vie de la grâce dans mon âme. Je fais jaillir en moi la source de sérénité. Je fais jaillir en moi la source. C'est pour que je disais ça à propos donc du silence. Je fais jaillir en moi la source du silence. Silence, point d'exclamation. C'est pour ça que dans la règle de la communauté des frères de Saint-Jean, la pénitence, c'est le silence. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les frères de Saint-Jean, souvent, autant qu'ils peuvent, dès qu'ils peuvent, autant qu'ils peuvent, et tous leurs amis pareil, eh bien, ils doivent se dire pénitence, par rapport à toutes leurs confessions, tout ça. Pénitence, ça veut dire silence. À partir de la pénitence, c'est une suite du sacrement du grand pardon du Christ, reçu par Marie et Jean au pied de la croix. Silence pour recevoir ça. Et effectivement, ça réalise ce que ça signifie. Parce que tout sacrement réalise ce qu'il signifie. Et ce silence intérieur vient là. C'est un silence divin, c'est un silence surnaturel, c'est un silence qui vient de Jésus crucifié, qui est à la mesure de l'Immaculé. Oh, je fais jaillir aussi, je peux faire jaillir en moi. Par exemple, vous êtes énervé, vous êtes en colère, vous avez l'agressivité, vous êtes ce que là, vous êtes impatient, tout ça. Alors, en fait, vous avez qu'à dire patience, point d'exclamation. Vous pouvez trouver patience, mais il faut faire jaillir la patience du fond de votre âme. En vous, vous avez la ressource métaphysique de la patience. Il faut trouver cette source et la refaire jaillir comme une fontaine intarissable de patience. Patience, ça y est. Je peux le faire, je ne peux pas le faire à votre place. Mais je vous signale le petit truc. C'est beau. Vous voyez, ça prouve bien que les actes humains sont des actes volontaires et contemplatifs. C'est ce qui caractérise les actes humains. Parce qu'ils s'enracinent dans l'être de l'homme. Parce que l'être de l'homme est un être de vie. C'est ce que dit le livre de la Genèse, chapitre 2. Alors, je trouve en moi cette source qui fait que je suis un homme, et c'est contemplatif, c'est lucide, et c'est volontaire. Je le décide, je choisis de refaire jaillir. C'est en la puissance de l'homme, ça. C'est en la puissance de l'homme de faire rejaillir la source des qualités intérieures. Et du coup, je suis noué au bout d'un certain temps, noué à ce fait que je suis un être de vie sous la totale dépendance du Créateur. Moi, je suis rien à côté du Créateur. C'est là que naît le mépris de soi-même. Et du coup, on s'en fiche des séductions de ce monde. On est attiré, on ne se préoccupe que des choses de Dieu. Au fond, tout ça, c'est une espèce de petit résumé d'un acte d'adoration. Mais tout commence avec le silence. Alors, bon, continuons. Oh, mais non, je ne peux pas continuer.